Vous écoutez RTL.
Bonsoir Samia Maktouf.
Bonsoir.
Vous publiez après-demain chez Michel Lafon un livre qui retrace votre histoire, votre parcours d'avocate et dans lequel vous affichez vos convictions qui vous amènent et vous ont amené à défendre les victimes du terrorisme, mais aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, des personnages, j'allais dire plus troubles, comme Ziad Takieddine, l'homme d'affaires franco-libanais, ou encore Laïla Ben Ali. Vous en expliquez dans le livre, on y reviendra. Mais évidemment, l'essentiel, c'est la défense des victimes du terrorisme, c'est le procès, c'est l'actualité d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah. Procès qui va se terminer après-demain. Le réquisitoire a été rendu hier, la réclusion perpétuité a été demandée. Vous défendez dans ce procès la mère du premier militaire tué par Merah. On l'a entendu sur RTL dire toute sa satisfaction, toute la confiance qu'elle a en la justice française. J'imagine que vous êtes exactement dans le même état d'esprit.
C'est l'état d'esprit de toutes les parties civiles, de personnes qui attendent depuis 5 longues années à voir celui qui était à l'origine de ce permis d'assassiner. Donc il était important de le voir, de l'entendre, de comprendre le déroulement et les circonstances réelles et exactes de ces assassinats. Il était important.
C'est-à-dire que vous êtes persuadé qu'Abdelkader Merah n'était pas juste le frère de Mohamed Merah.
Je ne suis pas persuadé. Ouais. C'est les faits qui le relèvent. Il y a 117 hommes. Il y a un examen total.
Parce que Maître Dupond-Moretti est en train de demander l'acquittement en ce moment.
Il est dans sa stratégie de défense qui, permettez-moi de relever d'ailleurs, qu'elle est contradictoire par rapport à ce que a reconnu son client Abdelkader Merah, a reconnu sa présence sur les lieux du vol du scooter, lequel vol du scooter a permis de tuer cette personne.
Abdelkader Merah, vous en parlez dans ce livre, et vous racontez notamment qu'il avait une manière assez étonnante de signer ses PV d'audition lorsqu'il était entendu par le magistrat.
Tout à fait, et c'était pour moi une manière d'attirer l'attention sur les dysfonctionnements de notre justice, le dysfonctionnement du décodage qui n'a pas été opéré en 2012 jusqu'en 2015 d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'il écrivait lorsque le magistrat lui disait voilà le PV d'audition, allez-y, signez-le.
Alors sur 18 langues page de PV, Abdelkader Merah qui voulait exprimer, parce qu'il ne reconnaît pas la justice de l'homme, il ne reconnaît que la justice de Dieu pour lui, donc il s'adressait directement au magistrat et je me souviens avoir dit au magistrat instructeur, mais monsieur le juge, mais Abdelkader Merah qui était en rupture avec lui, il ne voulait pas répondre aux auditions, je lui dis mais vous êtes devenu ami, il vous écrit, il vous demande même de vous convertir à l'islam, qu'est-ce que vous dites, mais monsieur le président, lisez, il y a 18 pages et sur les 18 longues pages, à chaque fois, il y a une signature, des versets, des demandes et des prêches.
Ouais. Mais ça, les magistrats ne demandaient pas la traduction.
Alors, ils m'ont demandé de procéder à une demande d'acte, ce que j'ai fait. Ouais. Et le lendemain, comme Abdelkader Merah a bénéficié de l'accès à son dossier à titre personnel, il avait reconnu et accepté en tant que tel mes propres traductions. Mmh. Donc, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il n'est pas normal pour décoder un comportement, une idéologie mortifère, que notre pôle terroriste ne soit pas, il ne l'était pas en 2012. Mmh. Certes, il y a eu une avancée considérable, mais on ne pouvait pas ne pas se prémunir de tous les moyens. Et je parle de ces PV signés.
Et au moins traduire ce qu'il y avait sur les
PV. Parce que je n'oublierai jamais la signature du magistrat instructeur qui me dit « Ah oui, il a changé de signature depuis peu de temps. »
Il y a deux accusés dans le box, là, au procès. Il y a Abdelkader Merah et puis il y a aussi un ami d'enfance de Mohamed Merah qui lui a fourni une arme et un gilet.
Une personne qui a permis, c'est un grand délinquant, un voyou de ces quartiers qui a permis l'obtention de ces armes pour tuer ces 7 personnes.
Vous pensez qu'il manquait encore des personnes dans le box des accusés?
Voyez-vous, moi je vais vous dire ce que j'ai plaidé. Moi j'ai expliqué lors de ma plaidoirie que je ne suis pas comme Mohamed Merah qui entendait des voix, mais je vois des fantômes. J'ai vu les fantômes de Sabri Yassid dans ce box trop vide. J'ai vu le fantôme de Fabien Klein, de Jean-Michel Klein, de Souad Merah, de toute cette cellule terroriste qui a participé à l'endoctrinement de Mohamed Merah et qui était dans l'entourage d'Abdelkader Merah. Mmh. Et il faudrait quand même rappeler, et je l'ai rappelé d'ailleurs dans ma plaidoirie, c'est que nous sommes arrivés à Mohamed Merah par Abdelkader Merah. Donc, il ne faut pas le soustraire à cette action mortifère qui a été organisée, qui a été préparée. Et il y a eu un passage à un acte terroriste qui a permis qu'on tue 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, permettez-moi de le dire parce que c'est très important, il y a nos militaires. Et on a aussi assassiné l'enfance parce que les enfants de l'école aux Aratora ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient de confession juive. Mohamed Merah se flattait d'avoir voulu mettre à genoux, à terre, la France.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on fait suffisamment pour les empêcher d'agir? Je veux dire, comme par exemple, vous entendez Gérard Collomb ce matin sur RTL, le ministre de l'Intérieur, dire que les djihadistes revenus en France sont bien surveillés par les services. Est-ce que vous, qui êtes au contact des familles des victimes, ça vous rassure?
J'aurais aimé qu'il le soit mieux depuis 2006, puisque on avait détecté le caractère, je dis bien, dangereux de Mohamed Merah. Pour autant, il n'a pas été permis de le neutraliser. Alors aujourd'hui, est-ce qu'ils sont, ils sont surveillés? Moi, je dirais que la surveillance, elle a toujours fonctionné, mais cette coopération entre les différents services de l'État qui permet d'arrêter les personnes qui sont en voie de passer à une action armée, c'est ça ce qui ne fonctionne pas, parce que nos institutions, parce que nos différents services de renseignement, parce que le travail collectif avec la police, malheureusement, n'est pas suffisamment intégré.
Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui veulent rentrer, avec les familles, les femmes de djihadistes, avec les enfants de couples djihadistes? On posait tout à l'heure la question à la ministre de la Défense.
Écoutez, moi je défends des familles, des grands-parents qui souhaitent récupérer des enfants français. C'est très important d'insister sur le fait qu'il s'agit de personnes, de jeunes français. Qui sont actuellement, qui sont nés et qu'il ne faut pas laisser grandir dans la terreur. Parce que les laisser grandir dans la terreur, c'est de créer des bombes à retardement.
Donc les accueillir, mais dans quel cadre?
Les accueillir dans le cadre de la loi. Ils sont français, ils ont le droit d'être élevés sur le territoire français. Bien entendu que les mamans qui vont suivre, puisque aujourd'hui, ce n'est plus un tabou que de dire qu'on a décidé de les exterminer, les djihadistes, les terroristes, mais nos enfants doivent revenir, on doit les sauver pour qu'il n'y ait pas de bombes à retardement et qu'on ne voit pas fleurir ailleurs.
Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort. Le livre est signé Samia Maktouf, avocate qui était ce soir sur RTL. Merci beaucoup d'être venue. À suivre, le rappel des titres, puis la météo avant RTL Monde. Direction ce soir Bali, où l'on récolte le cacao.
RTL soir 18h48.